irréparable, invivable, incurable.
Borda que próximamente los muchachos sigan mejorando y sigamos ganando.
Dans cet univers de la parole, dans les paroles cosmiques.
Nosotros somos los únicos locos que tenemos antena, los de la Colifata. Si ven otro por ahí con antena, es un marciano, no es un loco. Gracias.
Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa.
No! Ma porca miseria!
Eh bien, on sent que nous sommes devant un acte de gravité de la parole humaine et que nous sommes ici devant une réalisation cosmique extraordinaire. Jamais l'homme n'a été si puissant depuis qu'il parle à la radio.
La radio des petits agités.
Alors bonjour. Aujourd'hui, donc, c'est avec une grande joie qu'on va faire notre première émission avec Rhizome. Donc émission qui sera intitulée « Le coin du lien ». En introduction, du coup, je souhaitais encore une fois vraiment vous remercier pour cette belle rencontre de cet été. Et je voudrais rendre aussi un hommage à la radio La Colifata. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous fait nous réunir aujourd'hui tous ensemble. Voilà, donc un petit hommage à La Colifata parce que c'est quelque chose aussi, je pense, qui nous porte les uns et les autres. Voilà, donc aujourd'hui, notre thématique, c'est « Habiter ». Je vais essayer de commencer par une petite définition qui introduira cette émission. Habiter signifie être présent au monde et à autrui. L'action d'habiter possède une dimension existentielle. Habiter, c'est construire votre personnalité, déployer votre être dans le monde qui vous environne et auquel vous apportez votre marque et qui devient vôtre. C'est parce qu'habiter est le propre des humains qu'inhabiter ressemble à un manque, une absence, une contrainte, une souffrance, une impossibilité à être pleinement soi dans la disponibilité que requiert l'ouverture. Donc, ensuite, nous allons continuer par une lecture de texte, plusieurs lectures de texte d'ailleurs. Je crois que c'est Amandine qui commence. À toi, Amandine.
C'est un poème de Hölderlin, un morceau de poème de Hölderlin, qui s'appelle « En bleu adorable », qui a été écrit en 1823. Un homme... Quand la vie n'est que fatigue, un homme peut-il regarder en haut et dire « Tel aussi je voudrais être ». Oui, tant qu'en son cœur dure la bienveillance, toujours pure, l'homme peut avec le divin se mesurer, non sans bonheur. Dieu est-il inconnu? Est-il comme le ciel, évident? Je le croirais plutôt. Telle est la mesure de l'homme, riche en mérite, mais poétiquement toujours, sur terre habite l'homme.
À toi, Fanny.
Habiter, vaste programme. Quand je me regarde, je me dis que je ne suis pas habitée, si ce n'est de mettre du bazar partout. Ma manière d'habiter, c'est le bordel. Et pourquoi pas? Lorsque l'autre instille un peu de déco, un peu de plantes, cela me ravit le cœur. Moi, je n'habite pas, je suis habitée. Habitée forcément par quelqu'un. Mes vivants et mes morts m'habitent. Pour les vivants, l'éloignement fait que... C'est difficile. Pour les morts, il s'agit d'une grande mélancolie. J'aime à être remplie d'histoires de vie. Ma grand-mère, qui après-guerre était vieille, 25 ans, rencontre mon grand-père, 6 gosses, elle qui disait que si elle avait eu la pilule. Cette grand-mère m'habite. Maintenant, je ne sais pas investir un lieu. D'autres le font pour moi, et pourquoi pas. Mes béances me font aller vers d'autres horizons. Tout ce qui rentre chez moi ne sort pas. Syndrome de Diogène quand tu nous tiens. Aïe, aïe, aïe. Voilà ma manière d'habiter. J'accumule quoi que ce soit. Les publicités ne sortent pas de chez moi. Voilà une chose parfaitement inutile. L'art est inutile si ce n'est le beau. Mais les pubs. Je tente d'aimer ma vie, de m'aimer dans mon habitation et je danse et je chante. Seul danser et chanter me font du bien. Habiter est un sujet douloureux. Je suis habitée par les autres. Ils m'emplissent de joie, de stress, d'angoisse. Je suis caméléon. Le désir de l'autre est mon moteur. Quand il ne me va pas, j'estime faire de la résistance passive. Mon habitation se réduit à mon lit et moi. Que demande le peuple ? D'aucuns ne comprennent pas, mais c'est ainsi que je suis au monde. Mes amis, je suis empli de leur bonheur. L'être est beaucoup plus important que le reste. Je suis au monde et basta. Je suis au monde et oui, il faut faire avec. Avec mes habitations, mes vivants et mes morts. Voilà un bout de la notion d'habiter chez moi, dans mon antre.
Merci Fanny. Alors ensuite, nous avons un texte de Jean-Pierre.
Juste une petite seconde, il faut que je le retrouve. Désolé. Donc habiter, du latin habitare, avoir, posséder, en l'occurrence une maison ou un appartement. Petite parenthèse, est aussi utilisé pour un rôle au théâtre ou au cinéma. Les comédiens disent être habités par le personnage. Donc, en quelque sorte, possédé par lui. Quel luxe! Mais revenons au concret, c'est-à-dire habiter une maison, un appartement, posséder un foyer. C'est malheureusement ce qui, actuellement, et cela depuis des années, maintenant est devenu tragiquement problématique. Lorsque l'on voit le nombre de sans-abri qui s'accroît dans les rues des grandes villes. Alors que si l'on lève un peu le nez, on pourra s'étonner du nombre d'appartements, voire d'immeubles vides, et cela depuis des années pour certains, qui pourraient, s'il ne s'agissait pas là tout simplement de ce que l'on appelle couramment, n'est-ce pas, de la spéculation immobilière. Être mis à la disposition de cette masse de gens qui, depuis trop longtemps, ne possèdent plus rien. Et qui, pour certains, ont été gratifiés d'être possédés par le désespoir. Alors, je finirai peut-être par cette équation. Pas de foyer, pas de stabilité. Pas de stabilité, pas de travail. Pas de travail, impossibilité de s'insérer. Et toute personne non insérée, entre guillemets, peut, au bout de son désespoir, sombrer dans ce que les gens bien pensants nomment la folie.
Merci Jean-Pierre.
De rien.
Ensuite, nous avons un texte de Christian.
Oui, bonjour. Christian, moi-même, je vais vous développer mon texte. Alors, bonjour. Face à la différence, le handicap, comment vivre ? Depuis que ce monde que j'aime encore, pardon, j'ai pas mes lunettes, j'ai du mal à voir. Face à ce monde que j'aime, depuis que ce monde existe, pardon, j'ai du mal à y voir. Oui. Veuillez m'excuser, on va le lire à ma place parce que j'ai actuellement pas mes lunettes, une très mauvaise vue et je ne voudrais pas raconter n'importe quoi, voilà. Donc, Jean-Pierre ou Amandine ou une quelconque personne du GEM, du Fumélois, le lire à ma place.
Alors, je crois que Gaël ou Mohamed, du coup.
Mohamed va le lire à ma
Mohamed
place.
Va le lire, super.
Je recommence depuis le début, mais il venait à peine de commencer. Face à la différence, les handicapés peuvent vivre. Depuis que ce monde que j'aime existe, il peut parfois être très beau ou très laid. Depuis que je réalise la mentalité des gens, beaucoup se comportent comme des imbéciles. Face à la maladie, ils ont des a priori, mais raison, l'exclusion, la marginalisation, les conflits, la violence, la haine, le racisme, les discriminations, les guerres, l'argent, la soif de pouvoir à tout prix enlève tout bon sentiment. Sur cette terre, beaucoup d'innocents souffrent dans leur cœur, leur âme, leur amour propre, ainsi que dans leur dignité. Aussi bien mentalement que physiquement, face à cela depuis la nuit des temps et jusqu'à maintenant, beaucoup restent indifférents et préfèrent se moquer, humilier, juger, taper, voler, mettre au martyr sans raison apparente. Pourquoi ne pas vivre en harmonie ? Il est vrai que j'idéalise un monde de paix, d'entraide, de solidarité. Ma mère et moi-même avons vécu beaucoup d'événements similaires à ce que j'ai décrit précédemment. Effectivement, ma mère était aussi handicapée mentale comme je le suis, parmi tant d'autres. Face au regard des autres, à leur jugement, nous souffrons à répétition au point d'en arriver à s'autodétruire. Nous n'avons pas choisi ce monde. Nous n'avons pas choisi la haine. Laissez-nous vivre en paix, en mémoire de tous ceux qui souffrent de quelque handicap que ce soit, de quelque maladie. En mémoire de tous les handicapés, de tous les nécessiteux. À tous les parents et les enfants du monde entier, la misère morale et physique résonne en moi. Christian, schizophrène, le 20-10-2007 à Fumel. 2017, pardon.
Merci beaucoup.
Apparemment, il s'agit d'un cri de souffrance de Christian. Solidaire.
Alors, Fanny, dis-nous tout.
Alors, je vais vous lire un texte de Jackie Paris. Jackie, une rencontre. Jackie est mon père, mon grand-père, mon amoureux. Petit homme exceptionnel, tenu par la transmission. J'ai appris à faire du pâté avec Jackie et tant de choses. Le collectif, le bien-vivre, tout un art. Jackie est un artiste de la vie et je l'aime. Habite. Oui, en vérité, je suis habitée, quasi possédée par une sorte de démon qui m'incite à créer, recréer plutôt toute une vie disparue depuis longtemps et à animer dès leur venue dans ma tête le peuple complet des habitants du village, prêts à témoigner de leur temps pour nous comme s'ils n'étaient jamais partis. Il s'agit bien là d'une sorte de passion qui m'oblige à témoigner, à tout remettre en route, les gens et les bêtes, sur les lieux mêmes de notre histoire, ici à Château-sur-Allier. Oui, il fallait être habité pour grappiller ce que les maîtres refusaient de partager et gagner la plus élémentaire des dignités, et s'imposer de fait à un séjour qui n'acceptait pas d'ouvrir ses portes. Avec l'espérance folle et la volonté déterminée de léguer aux héritiers les biens moraux et sociaux auxquels peuvent désormais prétendre ceux qui suivent, la liberté, l'égalité et la fraternité, fruits portés par la République. L'être humain semble se recharger à l'énergie toujours disponible des étoiles. Et pourquoi pas, du soleil lui-même, un des maîtres de l'univers. Je suis une boule d'énergie. L'invisible m'habite, qui s'affiche à force d'inventions et d'actions qui se sont succédées pendant tant d'années. Au compteur, 83 ans, et la surprise d'avoir souvent survécu, malgré les vents contraires et les assauts qui n'ont pas manqué. Une certaine Fanny m'a transmis un sujet de réflexion qui l'a préoccupée. Peux-tu me dire ce qu'évoque pour toi l'expression « être habité par » ? Elle sollicitait de ma part un texte dont j'ignore encore la destination. De fait, au téléphone ce soir-là, aucune idée, aucune lumière ne me parvenait sur le sujet. Mais entre veille et sommeil, la nuit qui suivait, comme cela se passe souvent, j'avais des fulgurances. Ce texte naissait dans ma tête. J'étais belle et bien habitée. Et je me disais que Fanny avait bien fait de me solliciter depuis presque une année. Je n'écrivais plus. J'évoquais donc ce temps du métier, l'école, les enfants et la vie périscolaire, les recherches et les collectages, la Chavanée, notre groupe de recherche et d'expression paysanne, l'acquisition d'Ambro, notre famille si féconde, la dizaine de livres écrits et publiés. Oui, il a fallu que mon âme soit habitée par ma volonté de traduire les témoignages du menu peuple qui a vécu sur la colline des Chavans, les métiers, les coutumes, et miracle suprême, les odeurs et les accents, les bruits et les chants, les musiques, les regards de la mémoire, sans oublier la belle simplicité des silhouettes, les gestes pleins de précision et les habitudes libératrices pour moi, pour moins peiner à l'ouvrage que s'imposer leur corps meurtri. Leurs têtes pourtant prudentes ont alors laissé grandir de solides projets dont on mesure aujourd'hui l'aboutissement. Les syndicats des ouvriers et des paysans, les premières coopératives, les tentatives pour réduire l'exploitation de l'homme par l'homme. Et tout cela à Ygrande et à Bourbon, ici chez nous dans le bocage bourbonnais, et à se reproduire partout dans la nation. Eux aussi, nos aïeux étaient habités. Chaque jour de classe, grâce à Célestin Freinet, j'ai été habitée par une pédagogie inventive et efficace dans toutes les matières de l'école, qui n'avait su au temps de l'enfance que me rendre malheureux et détruit. Le lycée en 8 ans d'internat, de la 7e à la philo, malgré la justesse et la force de son propos, n'avait ni su ni pu m'inspirer l'espérance et la paix. Je dois tout au tâtonnement expérimental à la profession elle-même en action et à mon énergie parfois brouillonne, mais toujours féconde. L'association Chavouis, créée avec mon épouse et nos enfants, a rendu bien concrète la Chavanée, âme collective à la tête bien dressée sur un bord de colline. Je l'ai portée nuit et jour, et même emportée au pays des rêves, parce que cela aussi était à faire. On a même raconté à mon sujet que j'étais habitée. En tout cas, bellement dépassée par moi-même. Oui, il fallait être habité par mes remontées dans le temps. Merci mon cœur, le nageur de combat te salue bien. Merci d'être capable de méditer, d'avoir pu bénéficier de l'immense leçon de l'école publique. Fumier et terreau, nature de mon action. Pas de cocorico, ni d'hymne national, ni en AFN de ce drapeau qui couvrait le pur assassinat de nos amis de Chambray. J'ai tenté de gommer de ma mémoire la guerre qui nous a conduits dans des pays de souffrance, en taisant nos volontés et en masquant nos souvenirs intimes. Mon grand-père, Claude Meunier de Bieudre, héros de 14-18 qui crachait ses poumons brûlés par l'hypérite, la douleur de petite Marie, sa veuve et ma grand-mère, mon père Lucien, sur les routes de l'Exode, étrangement absent de mon histoire, a évoqué enfin l'impossible mépris dont nous fûmes traités à 20 ans en Algérie. Je ferme définitivement la porte aux mauvaises images. 60 ans plus tard, il est bien temps de se reposer sur un bord de fossé, inhabité. Enfin. Jacques Paris.
Merci Fanny.
L'étoile de la liberté revient chaque nuit, à chaque instant. Par moments, tu en as foutre besoin de bouger. Et au trop plein, tu t'en vas et tu ne reviens pas. Où tu reviens au même endroit où tu es né. Quand tu vieillis, tu exploses de vie. Tu brilles et tu brilles encore pour te regarder vivre. ta maman, la nébuleuse, te dit ne te couche pas trop tard, mais tu as un œil sur ton enfant, dans de vie tu ne dors pas.
Amandine, alors.
Alors, moi je vais mettre en voix un texte qui n'est pas de moi, qui est de Julie, qui s'appelle « Là où j'habite en rêve ». Si je vis avec des troubles schizo-affectifs, j'ai aussi été infirmière en psychiatrie. Et depuis 2 ans, alors que je suis à la retraite, je vais au travail la nuit en rêve. Le lieu est accueillant, un hôpital université, où je suis à la fois usagère, soignante et étudiante, selon les moments. De nombreuses personnes peuplent ce lieu, des inconnus créés par mon inconscient, des amis de la vie réelle, des usagers, des profs. Ainsi, chaque soir, je rejoins cet habitus travail, suis soignée la moitié de la nuit, puis je rentre chez moi où m'attend mon compagnon et souvent des potes. Mon logis de la nuit est à Toulouse, au bord de la mer. Il varie selon les nuits. Mais en son cœur ruisselle toujours un puits de lumière au soleil tombant sur un grand lit défait au drap très blanc. En chemin, je rentre à pied, en bus, en métro, en train, en bateau, selon les soirs. Je m'achète toujours une bouteille de vodka dans un bar accueillant mes bondés. Et dans cette dernière journée qui se déroule au soir, mon cerveau juxtapose mes préoccupations diurnes. Ainsi, j'appelle ma banque, les entrepreneurs pour les travaux, je gère la maison. Chaque soir, je suis impatiente de retourner au taf. Quant au cours de cet hôpital fac, je les sèche et fume des clopes dans le couloir, ce qui me procure un profond et exaltant sentiment de liberté. Le même que je me représentais quand j'habitais à Toulouse.
Après, nous avons un texte de Mohamed.
Bonjour. Moi, c'est relatif à la folie. Je suis schizophrène aussi. L'habitat de Mohamed Menadi. Dans mon habitat, je suis... Pardon, si j'arrive à me relire. Non, ça, je ne le lirai pas. J'arrive pas à le relire. Je vais recommencer au début. Pardon. L'habitat de Mohamed Menadi a fumé dans son appartement et au monde, où je me sens exclu de tout et de tous pour ces fédérations d'ailleurs ou autres, d'autres. Je me lève tôt, dès 5h30 environ, tous les matins et jours. J'ai dans mon appartement beaucoup de mal à me doucher. Mon volet de mon salon est cassé. Je suis dans une grande obscurité dans mon salon qui est le lieu principal où je vis. Seul. Cela m'aide beaucoup incommodable. J'ai toujours l'impression dans mon appartement, là où je voulais en venir, d'être vu par le monde entier et tout l'univers. Jusqu'à mes endroits les plus intimes, les WC par exemple. Cela relate d'une psychose que je vis en permanence. Parfois de cela émane de moi un ras-le-bol. J'y pratiquais de la religion, l'islam, à mon grand tort, après coup de raison. Que je me faisais. Dans ma tête et mon fort intérieur, et de ce ras-le-bol parfois, comme bien bien souvent, et aujourd'hui, je n'ai pas pris mon traitement quelquefois, cela augmente cette psychose, et je me pose souvent la question à me demander si c'est pas dû à ces pratiques religieuses d'un autre monde, certes, qui m'ont déstabilisé et amené à me retrouver sur une sphère qui n'est pas la mienne et autre que la réalité et la réelle. Cela me soulage un peu de ne pas le prendre parfois, ce traitement, dans un appartement. Le traitement ne me sert pas à grand-chose vu que j'y suis tout seul et que je n'ai personne à qui parler. Est-ce un traitement d'une traite ? Je me demande bien souvent de quelle traite il s'agit. Les yeux livrés dans la ville à la solitude, la voix éteinte dans cet appartement. Des fois, je me réfugie derrière la religion, toute d'ailleurs, à part le judaïsme que j'ai oublié dans ce lieu-là et d'autres pas. Me remettant à Dieu dans cet appartement, j'en ai souvent des échos négatifs en retour de ces voix de religion, dont les gens, souvent, il me semble, ne veulent pas. C'est ma seule compagnie. Dieu, parfois, mais c'est relatif quand même à quelque chose, comment dire, où je me demande si j'y perds pas la raison, car il n'est prouvé d'aucune réalité son existence. Dépourvu de raison, donc, parfois à cause de cela et parce que je suis seul, je m'y sens incapable, mais je n'arrive pas à me relire, d'y penser et d'y aimer, de m'y aimer à parler seul. J'y ai très peu de visites et pour ainsi dire, pas du tout. Je me sens dans mon appartement comme un fou, une bête de cirque où le monde fumelle, ou plus souvent l'appartement, où le lot, j'arrive plus à me relire, pardon, je recommence, pardon, où le monde fumelle, ou plus souvent l'appartement, me semble vraiment déstabilisé complètement. Où je me sens regardé comme une bête étrange, comme dans un cirque, un être humain peut être regardé comme si certains, beaucoup, regardaient la télé, comme dans le livre 1984. Me surveille, éveille, il me semble, à ce que le plaisir et la vie ne soient pas en abondance comme ça devrait être lieu d'y être, dans ce quartier où il y a cet appartement. Aujourd'hui, je m'y retrouve un peu quand je prends le traitement comme il faut. Seulement, dans le cœur, parfois, j'ai l'impression d'y être un phénomène de foire de la psychiatrie et le social. Je ne sais pas plus si c'est à cause d'eux ou ma solitude, mais des fois, je me demande s'il n'y a pas le diable derrière tout ça.
Merci Mohamed.
Ah oui. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est. Je suis entré comme ça un jour. Il n'y avait personne. Seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis resté longtemps dans cette maison. Personne n'est venu, et tous les jours, et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois le matin, je poussais des cris d'animaux, je gueulais comme un âne de toutes mes forces. Et cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous amènent très loin, quand vous voulez aller très loin, puis quand vous ne voulez pas sortir, ils...
ils restent là. Ils vous tiennent compagnie. Et quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Ah, il faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bête comme ses pieds, gai comme un pinson. Bon, mais le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai, ou triste quand il est triste, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait seulement ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui appelait cet oiseau comme ça. Pinson, 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 pinson. Bam, 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 bam. Charge! Une pinson! Une kind petite pinson. Comme c'est curieux, les noms. Martin Hugo, Victor de son prénom. Bonaparte, Napoléon, de son prénom. Mais pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert, l'empereur s'appelle Dromadaire, il a un cheval de caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms, il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis... Ouf. Qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout avec ta bouche rouge comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà, dans ma maison qui n'est pas ma maison, tu
Alors, ensuite.
On va tenter un ping-pong de texte, alors c'est.
Ouais.
Un ping-pong entre Heidegger et Maldiné.
Un battle.
Voilà.
Allez.
Ah, je commence alors. Donc, je lis Henri Maldiné. Je me l'approprie au sens de Heidegger, justement, qui est pour qui. Excusez-moi, pour qui l'appropriation ne consiste pas à faire sien, mais à devenir autre au contact d'eux. C'est bien cela, je deviens autre. Et je rigole en revoyant un sociologue, dont je tairai le nom, suggérer aux étudiants que l'habitant doit, je cite, « doit s'approprier son nouveau logement en y posant ses meubles, en accrochant ses photos de famille, en le décorant, bref, en posant ses marques ». Or, il ne s'approprie vraiment que s'il devient hôte en résidant, si l'étrangeté qui sommeille en lui se réveille, surgit, se déploie et le transforme. « T'es transformé », lui déclare un jour un ami. « Tu te plais chez toi, j'ai l'impression, non ? C'est bien mieux que ton précédent logement. » Et il comprend que de ce chez-soi, c'est son moi qui s'y invite. Il convient alors de bien le recevoir afin qu'il y demeure, s'y installe. Une installation est avant tout une complicité de soi avec soi dans l'expression de l'autre. L'altérité consiste en la garantie de mes différences à l'aune de l'autre, de l'étrangeté étrange d'autrui à moi-même semblable. Honorer l'altérité déclenche l'acte d'hospitalité. L'hospitalité accueille pour recevoir, mais aussi pour neutraliser ce qui, dans l'autre, menace, pour pacifier la relation. C'est pour cela que j'ai proposé un petit texte qui réactivait l'ancien mot d'accueillance, cette hospitalité sans réciprocité, telle une hospitalité gratuite et pacifiée. L'accueillance, c'est l'hospitalité et ses alentours, un ménagement, une possibilité de lieu, éventuellement une rencontre, et à coup sûr, un ouvert.
L'homme habite en poète, Heidegger. Mais comment l'homme, ce qui veut dire tout homme est d'une façon permanente, pourrait-il habiter en poète ? Toute habitation n'est-elle pas à jamais incompatible avec la manière des poètes ? Notre habitation est pressée et contrainte par la crise du logement. La poésie est alors niée comme nostalgie stérile, papillonnement dans l'irréel et rejetée comme fuite dans un rêve sentimental. Ainsi, la poésie ne peut apparaître autrement que comme littérature, la même où elle est considérée comme moyen de culture et d'une façon scientifique, elle est un objet de l'histoire littéraire. La poésie de l'Occident a cours sous la dénomination générale de littérature européenne. Maintenant, s'il est entendu d'avancer que la poésie n'a qu'une forme d'existence qui est liée à la vie littéraire, comment l'habitation de l'homme pourrait-elle être alors fondée sur la poésie ? Cette parole, du reste, que l'homme habite en poète, est seulement la parole d'un poète, et d'un poète qui, dit-on, n'a pas su venir à bout de la vie. La manière des poètes, c'est de ne pas voir la réalité. Ils rêvent au lieu d'agir. Quand Tölderlin parle d'habiter, il a en vue le trait fondamental de la condition humaine, et pour la poésie, il la considère à partir du rapport à l'habitation, ainsi entendu dans son être. La parole « l'homme habite en poète » dit au contraire, c'est la poésie qui en tout premier lieu fait de l'habitation une habitation. La poésie est le véritable faire habiter. Seulement par quels moyens parvenons-nous à une habitation ? Par le bâtir. En tant que faire habiter, la poésie est un bâtir.
Lieu, site, espace. Voici quelques citations en préliminaire à l'élaboration de la formulation visée. D'abord sur le lieu. Locus est une place où l'on pose quelque chose. Situs, d'où vient notre mot site, est un participe passé dont la racine évoque le geste de la main qui envoie, qui lance ou qui lâche, et, dans le cas de situs, c'est le troisième sens de lâcher et le sens de la détente, et le sens de détente, de repos, qui a prévalu. Situs, c'est ce qui est lâché et abandonné ou laissé à sa place, en grec, tranquille. Le lieu, topos, en grec, se dit en allemand ort, et signifie, en bas allemand, la pointe de la lance. Quant à espace, spatium en latin, il est apparenté à attente, espoir. L'espace, précise Henri Maldinet, se situe comme un ouvert qui, en quelque sorte, naît et est constitué par une tension. Quel rapport y a-t-il ainsi entre espace et lieu ? Le lien entre espace et lieu, c'est l'homme. En tant qu'être au monde, il est un être spatial et non, et il est un être fondateur de lieu. Plus loin, il note « Et l'ouverture est inscrite dans le mot « exister ». C'est se tenir hors, hors de soi, d'où le mot « présence », être en avant de soi et en soi plus avant. Nous sommes hors, originellement, c'est ce qui différencie un existant d'un simple étant, c'est ce qui différencie l'homme de verre que voilà. »
Heidegger. Sans doute l'habitation de l'homme est-elle à bien des égards méritoire, car l'homme donne ses soins aux choses qui croissent et qui sont des choses de la terre, il protège ce qui grandit pour lui. Soigner et protéger forment un des modes de l'habitation. L'homme toutefois ne cultive pas seulement ce qui de soi-même développe une croissance, mais il bâtit aussi au sens d'édificare, en construisant ce qui ne peut pas naître et subsister par une croissance. Ce qui est bâti, les bâtiments en ce sens du mot bâtir, ce ne sont pas seulement les édifices, mais toutes les œuvres dues à la main et aux accomplissements de l'homme.
Psychogéographie et état des effets précis du milieu géographique consciemment aménagé ou non agissant directement sur le comportement affectif des individus. Psychogéographique, relatif à la psychographie, ce qui manifeste l'action directe du milieu géographique sur l'affectivité. Situation construite. Moment de la vie. Par l'organisation collective d'une ambiance unitaire et d'un jeu d'événements.
On a fini les textes. Moi, je vais vous lire un dernier texte pour conclure cette partie. Alors, c'est un extrait d'une intervention de Philippe Mérieux qui concerne aussi les enfants, en hommage à la radio des petits agités, à nos petits agités qui interviennent avec nous et qui sont le cœur de notre radio. Le petit homme découvre le monde dans lequel il arrive en franchissant progressivement une série de cercles concentriques. Cercle dans l'espace et cercle dans le temps, qu'il apprend à arpenter petit à petit, se réfugiant au centre dès que l'inconnu lui fait trop peur et s'aventurant au-delà vers de nouveaux horizons. Arpenter l'espace. Ainsi, le refuge est-il le lieu où l'enfant tout petit prend ses marques. Chaque objet est intégré dans l'espace physique, selon des repères mentaux stables. Lieu du repli face au danger, le refuge est aussi le point d'où chacun peut partir à l'aventure. Le territoire est l'espace que l'enfant explore à partir du refuge. Organisé, découpé en zones assignées à des fonctions précises, le territoire est le lieu de la découverte de l'organisation sociale. Il comporte aussi bien des possibles que des interdits, des ouvertures que des limites. L'enfant découvre progressivement le territoire domestique, puis scolaire, puis urbain. À la maison, il apprend où il peut aller et ce qu'il peut y trouver. Il comprend aussi que chaque zone comporte ses propres règles en fonction des activités qu'il s'y déploie. Plus tard, il découvrira dans l'école et dans la ville d'autres espaces, dévolus à d'autres activités. Ces espaces imposent chacun de se conformer aux attentes des autres et de ceux que l'on y côtoie, et qui n'ont pas toujours les mêmes goûts, les mêmes affinités électives. Le territoire n'est plus le lieu de l'intime, il est le lieu du social, de la construction possible de règles assujetties non point à la subjectivité de chacun, mais à l'activité collective. Mais on ne peut explorer le territoire et en respecter l'ordonnancement que si le refuge reste à la portée de main. Encore accessible, avec, quand on s'y réfugie, le droit imprescriptible à tout âge à la régression. L'enfant doit donc apprendre à arpenter l'espace du monde. Cet arpentage est difficile, car chaque espace est régi par des lois différentes et qu'il faut apprendre à en entendre le sens pour les respecter et progressivement habiter l'espace. Et c'est parce que cet arpentage est difficile qu'il faut le faire dans les deux sens, dans des allers-retours sans fin. Oui, vas-y, tu peux y aller. Tiens, n'oublie pas le micro qui est juste là, à côté de toi. Allez, on t'écoute.
Psychogéographique, relatif à la psychographie, ce qui manifeste l'action directe du milieu géographique sur l'affectivité. Psychogéographie. Étude des effets précis du milieu géographique. Consciemment aménagé ou non agissant directement sur le comportement affectif des individus. Situation construite. Moment de la vie concrètement dit librement construit par l'organisation collective d'une ambiance unitaire d'un jeu d'événements.
De texte. Nous devrions continuer par des échanges, des petites interviews autour des lieux, des errances et sur un certain nombre de photos que vous êtes allé prendre. Voilà. Fanny, on t'écoute.
Alors, c'est une petite interview de nos chers adhérents. Dora, mon endroit, c'est la voie verte, parce qu'il y a des graffitis partout quand on arrive au bout du pont. Julien, moi, c'est le château de Fumel. On peut s'y balader tranquille. Il y a des spectacles aussi. J'ai vu les détritus. Sébastien, le théâtre de la nature, des fois j'y vais et je me... Ça m'apaise.
Il y a eu de la censure là.
Il y a eu censure.
Pas de bruit sauf les oiseaux. J'y vais deux fois par semaine. Je me pose pendant une heure. Et c'est un moyen de détente que je me réserve. Denis, mon endroit c'est la maison relais. C'est l'endroit où je vis, où je suis bien. Dan, c'est le jardin, pelouse, c'est ma détente. Je suis bien, ça m'aide à réfléchir. Mais ce n'est pas mon jardin, c'est tout le jardin pour les adhérents. Chez moi, c'est chez moi. Céline, le château de Fumel, c'est par rapport à la vue dominante de Fumel. Ça m'aère l'esprit, je reprends de la hauteur. C'est bien de prendre de la hauteur. Jean-Pierre, Fumel, j'aime pas. C'est une ville morte. Il n'y a pas de centre. Que dalle. L'endroit le plus moche, la rue de l'usine. C'est abominable, triste et morne. Barbara. Mon lieu, le théâtre de Verdure. C'est là où j'ai fait mes premiers sauts en VTT, en vol et liberté. Laura. La voie verte côté Libos, j'aime bien m'y promener et me ressourcer pour aller au cinéma. C'est là où je faisais du vélo avec mon frère. Nadine, la cascade à Libos à côté de chez moi. Et pour ma part, c'est le cinéma. Donc c'est Fanny qui parle. Mohamed, on n'avait pas noté.
Mohamed, tu as le micro juste à côté de toi.
Mon habitat préféré à Fumel, c'est le 37 rue de l'Hôte, parce que j'ai pratiqué l'islam pendant des années, à travers des parcours vengeance, ça se dit à la radio, le mot vengeance ?
Tout se dit à la radio.
Tout se dit pour une vengeance, une liberté, une solidarité de tout ce qui m'avait fait m'y retrouver en pensant à des images de télé et autres, des médias, vis-à-vis de gens opprimés du monde qu'il avait été comme moi. C'est mon lieu préféré de Fumel, même si j'aime pas Fumel non plus, et que j'y suis né. Ça reste le 35 où au cœur des opprimés du monde, je me suis senti dans une vengeance et un soutien pour me venger un enfermement qu'on avait fait sur moi, la Candélie. Abusif à mon goût, comme souvent dans ces cas-là.
Amandine, moi non plus j'avais pas noté, mais mon lieu préféré, contrairement à Jean-Pierre, c'est la rue de l'usine. Ça me rappelle le Nord en fait, ça me rappelle Calais, les mines aussi.
Ouais, j'adore le château de Fumel, où on peut y voir une vue imprenable sur tout le Lot. Et c'est magnifique. Voilà. Petite parenthèse.
Moi, c'est Mont-Saint-Pron, car on peut s'y percher.
C'était Gaëlle.
Mon lieu préféré, c'est la voie verte en bas de Mont-Saint-Pron. Et sur la voie verte, je faisais du vélo avec mon frère. Et j'aime bien passer par la voie verte pour aller au cinéma.
Christian. Tiens, tu as un micro, Christian, là, juste là. Regarde.
Oui, bonjour. Mon lieu préféré est le marché de Libos, qui me rappelle, je remets juste dans le Fumélois et ses alentours. Donc, j'espère revoir le marché de Libos, dont je n'ai pas vu depuis plus de 20 ans. Voilà, qui me rappelle de très bons souvenirs et de très belles rencontres. Voilà, j'avais à vous confier ça. Le jeudi, oui, je me rappelle bien. Oui. Voilà.
Non, il a un potentiel comique phénoménal.
Alors, Fanny ou Jean-Pierre ?
Alors, on a eu un extrait de nos lieux préférés individuels, mais notre lieu préféré collectif, évidemment, c'est le local qu'on a ici, donc qui est à Conda. Donc, on est un peu excentré de Fumel. Et c'est un lieu qu'on investit, qu'on habite au fur et à mesure. Même moi, j'arrive à y habiter. Donc, c'est dire. Et voilà.
Mais si c'est peu dire, c'est pas rien quand même. Hein.
Combien on t'a payé pour...
Un commentaire, Jean-Pierre, tu...
Comment ?
Un commentaire, peut-être ?
Non.
On s'y détend et on prend du temps pour soi-même. On côtoie les animateurs et les adhérents, donc... C'est super, voilà, super. Bonne appréciation, merci.
Moi, du coup, Gabriel, je connais pas assez bien Fumel, mais néanmoins, il y a un lieu qui m'interpelle. C'est effectivement la rue de l'usine et l'usine, dans tout ce que ça peut exprimer de ce que l'homme est en capacité de construire et déconstruire. Voilà, je trouve que ça interpelle, en tout cas. Voilà. Commentaire dans le micro, Jean-Pierre.
Oui, ouais, dans le micro. J'ai pas l'habitude des micros, moi, ça me gonfle.
Bon, garde.
Maintenant, dire que oui, ça peut exprimer tout ce que l'homme peut faire. Tiens, toi qui connais l'Italie, parle-moi du Colisée, ça va. Mais une usine, je veux dire, bon... ouais, ça fait très...
Mais en même temps, une usine, c'est un endroit où fabriquer, où les hommes fabriquaient des choses de leurs mains.
Ils y vivent aussi, ils sont exploités.
C'était l'expression de la vie, de la construction, de ce que l'homme peut construire de par ses mains, de ce que l'homme peut construire autour d'une usine. Donc la vie, ah, attends, vous savez mieux que moi, le Fumélois, voilà, tout s'est construit autour de l'usine. Mais maintenant, c'est complètement déconstruit. Il n'y a plus grand-chose. Après, je suis d'accord avec toi sur la tristesse que peut exprimer cet endroit. Je te rejoins par rapport à ça. Mais moi, c'est tout ce que l'homme peut faire et défaire. Voilà, c'est assez, ça interpelle quoi. Ouais. Ça m'interpelle en tout cas.
Non, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent être qui interpellent. Je veux dire, bon, même la laideur, ça interpelle.
C'est sûr.
Hein. Mais bon, moi, quand je suis passé là-bas, bon, déjà, moi, je suis nouveau ici. Hein. Donc, je suis arrivé en octobre de l'année dernière. Je suis allé à Fumel parce que bon. J'ai vu ce village-là. Non, mais rigole pas. Je veux dire, bon, c'est un village. Bien, je suis allé là-bas. Je cherchais le centre. Je demande à une dame le centre. Elle me dit, c'est là, j'y étais. Il n'y avait rien. Il n'y a eu que quoi ? Qu'un homme qui était en train de fumer du shit. Je lui ai cherché quelque chose, monsieur. Je dis, non, je cherche une boulangerie. Et à côté de ça, il y a Katzen, quoi. Il n'y a rien. Le château, je connais, j'y suis allé, j'ai même pris des photos. Alors en plus, l'histoire, pourtant, photo, je veux dire, je prends mes photos, hein, je filme, je prends des photos, j'adore. Bon, quand on dit on voit tout le Lot, je veux dire, on ne peut pas dire que ce soit une vue absolument extraordinaire, quoi, parce qu'en plus, il y a.
Contestation.
Non, c'est pas extraordinaire. Attends, je veux dire, t'as pas vu vraiment des c'est barré par des, il y a des baraques là. Bon,
quand même le barrage.
Ouais, mais je sais pas, je suis pas allé jusque là. Et puis en plus, il y a rien qui s'y passe, quoi. Il y a que non, à Fumel, il y a rien qui s'y passe. Non, mais je parle pas d'ici. Arrête, tu vas pas me la faire celle-là.
Moi, je voudrais que voir ici de Fumel. Moi qui suis de Fumel, je voudrais dire à Jean-Pierre Pardon de lui couper la parole. Hein, parce que moi, non, mais c'est assez relatif à ce que tu dis. Fumel, là, on est en 2017, quoi. C'est mort entre parenthèses, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se sont éteintes, quoi. Il y avait le mouvement punk, il y avait l'usine, il y avait des jeunesses autres que celles à présent. C'est vrai qu'il y a toujours eu le mouvement de la drogue à Fumel dans certains... mœurs ou je ne sais quoi, mais Fumel a été un lieu bien plus vivant que ça et t'arrives vraiment au mauvais moment, quoi. Alors c'est ça que je voulais te dire, ça m'avait échappé, pardon. Si tu cherchais un meilleur à Fumel, c'est vraiment le mauvais, mais le plus mauvais moment que Fumel ait connu depuis longtemps. Avant l'occupation, quoi. Depuis l'occupation. Ah,
ça bouge encore un peu. Bon, il y a des animations au niveau du pavillon 108 où ça bouge pas trop mal. Il y a des bons groupes qui sont passés comme Pigalle et les Parabellum. Hélas, il nous a quittés. Bon. Oui, Parabellum. Le chanteur des Parabellum nous a quittés, oui. Et oui.
Il est mort.
Et voilà, ça fait. Ça continue à bouger malgré tout. Bon, c'est un peu dur en soi, mais ça va, ça bouge. Ça bouge pas mal.
Le problème avec le punk et le rock à Fumel maintenant, c'est que c'est plus l'élite maintenant. C'est un second mouvement. L'élite est partie, a vieilli, là, ça suit plus, quoi.
Merci, Mohamed.
Si, il y a des jeunes qui prennent la relève. J'y suis allé au pavillon 108. Plusieurs fois et j'ai pu m'éclater sur la scène, pas sur la scène, sur le bord de scène, on va dire. Et les jeunes suivaient le mouvement, quoi. Et ça dansait pas mal, hein. Ça dansait pas mal, ouais.
Ça ne parle plus, ça fait des expositions maintenant.
Oui.
Où ça, Mohamed ?
Roca Fumel, la salle 108, là, c'est de l'exposition, il y a plus. Non, c'est une métaphore, c'est des expositions, en arabe on dit de shams, c'est-à-dire de viande, et pour être bref, parce qu'à l'époque, les punks ils parlaient, ils avaient quelque chose à dire, et aujourd'hui, à Fumel, ils n'ont plus rien à dire, on ne les entend plus, on ne les voit plus. Peut-être qu'ils sont là, mais c'est plus les portes qu'ils ouvraient avant.
Ouais, et là, c'est une des caractéristiques des villes industrielles qui ont été complètement désertées par le travail. Sinon, moi, je voulais parler d'un équipement quand même, parce qu'à Fumel, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est justement, il y a eu cette énorme usine hein, qui faisait travailler 3000 à 4000 personnes. Donc, si on fait le calcul, ça faisait vivre à peu près 30 000 personnes sur le bassin, quoi, ce qui n'est pas rien. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu la nostalgie. Hein. Il va y avoir un documentaire ou un film qui est tourné actuellement, où en fait il y a eu un appel à la population pour jouer les différents rôles.
C'est un film avec Vincent Lindon, c'est ça, si les souvenirs sont bons.
Ah peut-être, ça je sais pas. Donc c'est... Et aussi, il y a une action de collectage actuellement sur justement ce que pouvait être le rock, le punk à Fumel, ce que pouvait être le travail, etc. Mais ça, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je ne m'y suis pas encore intéressée. Mais ça m'amène à vous parler de l'équipement qui est le cinéma, le Liberty, qui est un cinéma associatif où il y a deux salles et où ils font un travail absolument extraordinaire. Il y a une belle programmation, on a souvent les films récents qui sont là, il y a pas mal de documentaires, et on est en train de monter un boui-boui avec eux, parce que le mot partenariat c'est quand même un peu rédhibitoire. Donc on aura plusieurs actions avec eux, le tout prochain ce sera vraisemblablement en janvier, la diffusion du film 12 jours de Raymond Depardon, où nous allons proposer une soirée, vraisemblablement ça partirait sur une soirée débat, donc avec des gens du collectif du 39 ou de la syndicat de la magistrature. Et ensuite, nous allons avoir du 12 mars au 25 mars, la semaine de la folie ordinaire, où on pourra voir des documentaires, notamment sur Fernand Deligny. Voilà, pareil, accompagné de débats. Je passe la parole à Mandy.
Juste pour revenir sur cette soirée qu'on est en train d'inventer autour du film de Raymond Depardon, l'idée c'est quand même de proposer une soirée sur la parole des usagers de la psychiatrie, en fait. Et je pense que c'est ça qui est vraiment... Enfin, on n'a pas vu le film encore de Depardon. Mais voilà, cette parole, quel est le poids de la parole ? Le poids de la parole d'un usager face à un juge, face à un psychiatre, face à un infirmier, face au système en général. C'est vraiment le fil, en fait, de cette soirée. Voilà.
Ok.
C'est bien, on a un peu dérivé, en fait.
Sur nos manières d'habiter le film Lo aussi. Hein. Voilà. Comment est-ce qu'on on occupe cet espace, comment est-ce qu'on l'habite, du coup cet espace libre, qu'est-ce qu'on en fait ?
Eh oui. C'est aussi comment finalement le GEM habite la cité aussi et est habité par elle.
Vas-y, moi, ouais, on t'écoute.
J'en parlais à Christian, Fumel, c'est une autre époque et c'est pas celle-là. Là, tu trouves. Pardon, Jean-Pierre, je le regarde, excuse-moi, Jean-Pierre. Actuellement, c'est un grand deuil, Fumel, quoi. Non, mais si tu voulais trouver de la vie ou quelque chose d'explosif ou ce que tu veux qui puisse te réjouir, tu le trouveras pas maintenant. Hein. Non, mais je te dis que t'es vraiment arrivé au mauvais moment. Fumel, ça a été une super ville
où il fallait pas se perdre, où il y avait des portes d'habitat ouvertes à l'être humain et à tout ce que ça concernait ailleurs. Il y avait des chances à saisir pour avoir des habitats. Maintenant, elles sont infiniment plus restreintes, à mon avis, ces portes d'habitat, parce que moi, il n'y a plus les gens d'autrefois. Et ça a été un lieu du monde où il y avait les mêmes portes qu'ailleurs d'habitat, aussi vivant en tout et pour tout. Et actuellement, c'est un grand deuil parce que il y a un habitat humain et qui faisait un habitat vrai, quoi, qui n'est plus là et beaucoup sont partis, morts ou déplacés.
Oui, la population a vieilli.
C'est
oui.
Un grand deuil Fumel maintenant. Voilà. Et je trouve cet habitat vraiment très triste et je lance un appel, quoi, venez rejoindre Fumel. Nous aider parce que
venez reconstruire
parce que Fumel, les couleurs sont parties de la vie, du bonheur, de la joie. Les gens rient plus, les gens vivent plus, les gens parlent plus. Il y a que des vieux, des jeunes ignorants peut-être. Il n'y a plus personne pour apprendre quoi que ce soit de vrai aux jeunes de Fumel. Et je les plains vraiment.
Tu nous oublies, Mohamed.
Pardon. Oui.
Ici, regarde.
Oui.
Ah si, on vit, on rigole, on échange, on discute.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
L'espace.
C'est vrai, mais il y a quelque chose qui est parti. Il y a un habitat qui est parti à Fumel. Je me demande bien lequel encore. Moi, je suis né à Fumel. Hein. Il y a vous, merci beaucoup, mais
nous tous présents ici. Hein.
Oui, mais il y a beaucoup de portes d'habitat qui se sont fermées à Fumel, hein, qu'on pourra plus jamais ouvrir, hein, et qui sont fermées depuis environ 10 ans. 10 ans, ça a commencé il y a 10 ans de ça, quoi. C'est la désertification.
Après, des c'est entreprises peut-être l'ouverture vers des alternatives. Parce qu'ici, même si on regarde ici ce lieu qui était devenu inhabité...
Oui, il n'y a plus d'alternative, voilà. Ouais.
Il vous a été ouvert, vous avez rouvert la porte et maintenant vous êtes en train de l'habiter.
Oui, c'est vrai, mais c'est toujours à travers...
Une réappropriation de l'espace aussi qui a été laissée...
Oui, mais c'est à travers un vieillage. Moi, j'ai 47 ans maintenant. Où est la jeunesse de Fumel, quoi? Moi, quand j'étais jeune, quoi, j'étais là pour les vieux. Et maintenant que je suis un peu vieux, pardon... Il n'y a pas de jeunes pour moi. Voilà. Alors comment je vais m'y retrouver quand je serai encore plus vieux et où est l'instabilité, où est partie cette porte de stabilité des âges? Je me demande bien, comme si c'était produit un miracle à Fumel et qu'il y en a qui est quelque chose qui est parti. Hein. C'est encore une fois, je le dis, un deuil à Fumel. Mais lequel vraiment, hein? Entre parenthèses, c'est une métaphore, un deuil. Hein. C'est un habitat qui était génial et maintenant c'est naze, quoi, c'est minable, quoi. Rien que moi j'habite rue de la République, là, 41 rue de la République, quoi. À part pas entendre les gens parler de choses banales, et toujours les mêmes, c'est toujours pareil, quoi. Comme disait Cabrel, c'est toujours le même film qui passe à Fumel. C'est toujours le même film et au point de figer les yeux des gens et qu'il n'y ait plus une larme qui puisse couler. Ah, voilà. Et pour les plus vieux qui sont restés, comme pour certains de l'époque, encore des vrais fumélois, qui ne doivent plus s'y retrouver du tout. Hein. Moi, je trouve qu'il y a un habitat là, à Fumel, c'est une horreur, quoi. Alors, qui est le responsable à la mairie, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas content du tout, quoi. C'est un habitat, quoi, c'est un grand cercueil, quoi, Fumel, quoi. Mais il y a beaucoup à dire, excusez-moi. Je laisse parler Jean-Pierre.
Oui, il y a beaucoup de gens qui sont partis ailleurs faire leur vie parce que Fumel se meurt. C'est vrai, Momo, Mohamed a bon, particulièrement raison. C'est vrai, les gens partent.
Oui, ils sont partis, ça se meurt, Fumel.
Ils partent vers quelque chose où il y a plus de travail.
Oui, mais ça ouais. S'est toujours reconstruit. Pourquoi maintenant ça se refait plus ouais. Parce que l'usine, votre prénom, pardon?
Gabriel.
Gabriel, parce que l'usine a fermé. C'était le moteur de Fumel. Ça doit être ça, le grand deuil. J'ai trouvé.
Mais c'est ça, c'est
à
l'impression.
Moi, je suis complètement, pas pardon, mais excusez-moi, je ne montre pas fermé complètement, mais en grande partie plutôt, hein. Parce que excusez-moi, elle est encore ouverte, en toute petite partie, pardon.
Après, ce qui est pour quelqu'un qui vient pas, moi je suis pareil, je suis comme Jean-Pierre, je viens pas d'ici. Mais c'est vrai que la première impression, voilà, c'est ça, comme disait aussi Amandine, c'est ce qui pouvait être le charme d'avant, c'est voilà, c'est cette ville industrielle. Donc comme toutes les villes industrielles, c'est construit autour de l'usine, avec les pavillons, avec toute la vie qu'il pouvait y avoir, la vie ouvrière, la vie familiale et tout ce qui pouvait aller avec. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, quand on y passe, c'est vide. Enfin, c'est voilà, il y a une impression de vide physique et même au niveau de la vie, quoi. Enfin,
oui, vraiment, voilà. C'est pour ça que je parle de deuil. Ouais. La vie, c'est moi je le disais, je ne sais pas si ça se dit au renouveau des élections de Fumel, mais je disais que quand Coste hommagé après qu'il a été élu, Fumel, c'est vrai que M. Coste, il a de beaux yeux, quoi. Parce qu'à part les yeux, à Fumel, il n'y a pas de vie. Ouais.
Après, c'est comment, comment c'est réhabiter cet espace différemment, qui sera plus ce qu'il était. Parce que l'usine sera a priori pas réinvestie. Donc il faut trouver d'autres moyens. Mais encore une fois, comme tu le disais, Mohamed, c'est vrai qu'il faut, il faut aussi des jeunes, il faut aussi des moins jeunes. Il faut que la vie reprenne différemment, peut-être.
Oui, mais là, ça sera plus que c'était, hein, Fumel, je pense.
Ce sera autre chose.
Hein,
il faudrait que ça vienne d'une volonté de la mairie.
Oui.
Ça ne peut pas se faire comme ça, quoi.
Non. Voilà. Est-ce que c'est vraiment eux qui doivent s'en occuper, quoi? Est-ce que c'est pas plutôt un patron d'ailleurs qui pourrait instaurer une grande usine dans le coin? Ben si, pourquoi pas? Ça serait bien. Mais moi, à mon âge, de toute façon, peu m'importe, mais j'aimerais bien.
Faudrait pouvoir aller visiter peut-être les villes de l'Est, quoi, les grandes villes métallurgiques, parce que c'est vrai que la métallurgie aujourd'hui, c'est fini, quoi. On n'en parle plus. Ce qui reste néanmoins à Fumel, c'est quand même, on voit où la ville a été très riche, c'est qu'il y a des super infrastructures. Il y a le cinéma, il y a une école des arts ici, donc qui est déclinée sous la forme de danse, musique, etc. C'est des super infrastructures, mais bon, la ville est plus ou moins sous perfusion, quoi. Donc jusqu'à quand tout ça va tenir, quoi, c'est sûr.
Perfusion, non, mais... vide, oui. C'est bien entendu.
Après, il faut être rempli d'ambition, sinon, sinon tout s'en va. Il faut trouver l'épaule là où elle est. Il faut trouver, bon, y a plein de petits artisans qui sont à la recherche d'employés. Et bon, faut mettre le pied à l'étrier. Bon, même si on est handicapé, on se donne une chance. Même ceux qui ne le sont pas arrivent à trouver quelque chose de stable au sein de Fumel.
Bon, mais la majorité, déjà, maintenant, à Fumel, il est resté que en partie.
Oui, comme je te dis, la plupart des gens sont partis, mais oui, voilà. Ceux qui restent...
Oui, c'est ceux qui ferment les portes des habitats. Tous les gens qui ouvraient les portes des habitats humains et autres sont partis. Et le restant, c'est les gens qui, en grande partie, qui ferment les portes. Moi j'ai remarqué ça. Un moindre pas, mais la majorité à Fumel, moi, je m'en rends compte tous les jours. Ils savent que fermer les portes, comme disait Tim Morrison, les portes de la perception, quoi. Qu'est-ce qu'ils perçoivent à la télé tous les jours? Après, ils ne savent plus ouvrir de portes, quoi. C'est l'élite qui savait ouvrir des portes, qui faisait que fumer le mondial, quoi. Elle n'est plus là, quoi. Donc, on vivra toujours dans un habitat de portes fermées.
Si, encore, tout le sport encore vivant. Hein.
Oui, mais...
Le sport est vivant, ouais, le cinéma est vivant...
Oui, mais il n'y a plus la révolte punk qu'il y avait, il n'y a plus l'usine...
Oui, bah, il faut tourner la page aussi,
Ça va, oui, mais ça ne sera plus pareil.
Il faut construire autre chose.
Voilà, il faut tourner la page.
Oui, mais ça ne sera plus...
C'est vrai que tu parlais de deuil, Mohamed, peut-être qu'il faut faire le deuil de ce qui a été et penser à ce qui sera prochainement, voilà. Avec les reconstruire différemment. Avec les volontés, j'ai pas d'idées. Enfin, il peut y avoir plein d'idées. Après, comme je disais, c'est un ensemble de volontés. Hein, un ensemble de volontés des gens, des habitants, de ceux qui habitent, la volonté de ceux qui gèrent. Donc, effectivement, des maires, Oui, mais des dirigeants, etc. Il faut avoir les moyens. Après, ce lieu peut être complètement autre chose. Ça peut devenir un grand lieu d'exposition. Ça peut devenir un endroit pour les artistes. Il y a plein de possibilités. Après, effectivement, voilà, ça dépend des envies et des possibles et des ouvertures des responsables.
Oui, ça ne sera jamais aussi bon qu'avant. Ça ne sera jamais aussi bon qu'avant. Ça, non, j'y crois pas.
Et de la population.
Et de la population. C'est ça.
Hein?
Barbara.
Rien que religieuse, c'est mort, Fumel. Religieusement, c'est mort. Il y a l'église, mais elle ne parle pas, on n'entend pas. Alors qu'avant, autrefois, il y avait.
Sois pas trop négatif, Momo.
Non, mais moi, j'ai toujours été pessimiste. Moi, je suis un grand pessimiste. Moi, je suis de Fumel. Je suis né dans le noir de l'usine et je reste un pessimiste.
Ils veulent quand même faire un pôle petite enfance à l'usine.
Hein?
Un autre pôle.
Et nous, il y a aussi un musée, à voir aussi à l'usine, c'est la machine à watts. C'est un. Comment on appelle ça déjà, hein?
Un monument.
Hexagone? Non.
Un hexagone, non.
Ben c'est dans le mime, là.
Monument, oui. La machine à watts,
c'est.
Deux watts.
C'est une machine qui recelait le minerai de fer.
Mmh. Mmh.
Voilà, avec la vous alimentez la machine à watts avec du charbon ou du bois. Et il y a
un triangle. Non. Un angle.
Qui est une personne douée en géométrie autour de cette table?
Pour moi.
Non, bon, c'est pas grave. Mais en fait, cette machine tirer du minerai de fer, quoi.
D'accord.
Donc, partout, quand on se promène aux alentours de Fumel, on trouve souvent des petites pierres assez lourdes. Et ça, c'est le minerai de fer que la machine à watts recèle.
Ok.
Elle est au patrimoine de l'UNESCO, mais je vérifie, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Elle est classée.
D'accord.
Ouais. On peut visiter régulièrement, ça c'est vraiment la chose qui ne va pas bouger.
Elle est classée au patrimoine de l'UNESCO, hein, super.
Je vérifie, mais dans mon souvenir, je pense que
Il me semble
que
si, je l'ai déjà entendu dire.
C'est la seule chose qui va rester de toute cette usine à la fin, normalement.
Merci Gaëlle.
C'est
un parallèle au retour des cours.
J'ai retrouvé le nom
pour
de.
Pour illustrer ce que voilà. Nous.
D'ailleurs, il y a un groupe, pardon,
Julien, donc la machine à watts est en forme de parallélogramme.
Voilà.
A priori. C'est deux.
D'ailleurs, il y a un groupe de femelles qui le chantait, qui devait savoir avant.
C'est deux.
C'est en haut, je retourne à l'école.
C'est deux grosses barres.
En haut, à 77 ans, je retourne à l'école. C'est ce qui arrive à femelles.
Et en mettant le feu à ça, et le minerai de fer se ressort de la terre, quoi. Merci.
C'était une grande effervescence.
C'est pas au patrimoine de l'UNESCO, c'est. Un monument remarquable.
Remarquable, très bien. Alors, est-ce que vous voulez faire un dernier tour de table pour conclure notre émission sur Habiter ? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire ?
Moi, j'ai Gaëlle. Un autre mot à dire, pardon.
C'est juste pour...
L'habitant principal de Fumel, c'est la lumière, maintenant, moi, je dis. La lumière qui nous reste en éveil, quoi. Moi, j'ai cette impression à Fumel, quoi.
Habiter. Moi, dans l'ensemble, je suis vraiment heureux d'habiter ici. C'est une pleine. Je me sens bien, parfois un peu moins bien, mais sinon, j'entreprends des choses avec des gens qui sont super et voilà, ça me donne envie d'avancer encore plus et d'habiter ces lieux à Conda.
Une petite phrase pour conclure, c'est que cette émission a pu être proposée grâce au travail réalisé pour le journal Le Petit Défibrillateur et que vous pourrez retrouver en venant nous voir au coin du lien à Conda, à l'ancienne maison de l'emploi. Voilà.
Merci Gaëlle. Christian.
De retour dans le Fumélois et de ses alentours. Voilà, je vis à la campagne chez Amandine dans le but d'intégrer sa famille et ses amis.
Je me rappelle le Fumel nostalgique d'il y a 10-20 ans, comme Mohamed le décrit. Fumel étant de plus en plus apparemment, j'ai vu que depuis une ou deux semaines, la population est vraiment invisible, en grande partie invisible. Le Fumelois s'est désagrégé de façon très importante. Je partage aussi la vie de Momo parce que j'ai eu mon père qui a travaillé pendant 15 ans à Pont-à-Mousson, qui vivait aussi à Métairie-Basse dans un taudis, et pourtant il travaillait comme un forcené. C'était à l'époque, tout au début, où il y avait 1000 et quelques travailleurs dans cette usine. Cette usine est devenue très à l'abandon, voilà. Et ce que je revois du Fumelois, mis à part la campagne et le marché de Libos que j'ai hâte de retrouver. Et je pense que c'est vrai, Momo a entièrement raison, lui qui est né à Fumel. Je pense que Fumel, sans l'intervention des politiques et de comment vous expliquer, et de personnes bien intentionnées qui peuvent faire revivre la ville de Fumel et ses alentours, ça serait le plus grand des bonheurs pour ceux qui habitent à Fumel et à ses alentours. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci, Christian.
Oui, peut-être qu'à fumer, il ne reste que des larmes.
Mohamed, toujours optimiste.
Moi, je vais conclure avec une exégèse, je pense, de je ne sais pas qui, mais qui est citée par Heidegger. L'homme, quand sa vie n'est que peine, a-t-il le droit de regarder au-dessus de lui et de dire « Moi aussi, c'est ainsi que je veux être. » Oui.
C'était un morceau du poème de Hölderlin.
Amandine, Barbara, Gaëlle, quelque chose pour conclure ?
Merci d'être venu habiter avec nous une journée, pour le moment. Merci à tous, déjà aussi.
Jean-Pierre ?
Oui, non, je voulais juste dire un mot pour pas qu'on pense que je suis un pessimiste et un négatif total. Bon, donc voilà, je voulais dire que bon, d'abord, je suis très content d'avoir rencontré Amandine et Barbara. Non, putain, tu vois, voilà, non mais c'est pas ça, c'est que... Toi aussi, voilà, bon, je suis très content... je suis très content d'être ici, en plus. Bon, et puis, je dois dire que, au niveau du boulot que je fais, au niveau du théâtre, et ceci et cela, je suis très, très, très content des résultats. Je suis un grand malade au niveau du boulot, en dehors aussi, hein, mais bon, au niveau du boulot, et j'ai eu des résultats en très peu de temps, alors que je l'ai fait faire à des comédiens et comédiennes, et ça a été moins rapide, quoi. Et, bon, c'est vrai, on se sent bien ici. Voilà.
Je confirme.
Bienvenue à la maison,
Jean-Pierre. Non, c'est vrai, on se sent bien ici, c'est sympathique. Voilà, même que je me lève tôt, alors que c'est pas du tout mon truc. Voilà.
Tombe du lit, littéralement.
Donc j'arrive à être à l'heure et même en avance. Voilà. Alors, bon, à côté de ça, c'est vrai que de temps en temps, je fous un peu la merde. Mais c'est mon truc, c'est comme ça, j'y peux rien. Tout à l'heure, t'as peut-être senti un petit peu d'agression de ma part.
Pas du tout.
Moi, je l'ai senti. Voilà. J'ai senti que j'étais un petit peu de suite sur la.
J'ai
sur
senti
le,
du débat, mais c'est
sur
bien.
Sur le sentier de la guerre. Mais c'est comme ça, j'y peux rien. Ça m'a posé pas mal de problèmes, mais je suis pas là pour raconter ma vie, parce que sinon on s'en sort plus. En plus, il avait presque fini, hein, voilà. Et y a un truc extraordinaire
C'est-à-dire que les textes qui ont été écrits, hein, aussi bien par Christian que Mohamed, hein, ils sont... Fanny, exactement. Où elle est, ah, où elle est.
Juste à côté.
Mais oui, mais je la connaissais déjà. Ils sont... Non, non, non. Surtout pas. Ces textes sont magnifiques. Oui. Et il y a une chose qui est très importante et que je tiens à préciser. C'est-à-dire que cet espace-là, cette habitation, on va dire là, leur permet aussi de s'exprimer et c'est meilleur que tous les médicaments. Pourquoi ? Parce que malheureusement, et c'est pas près de changer, au niveau de la psychiatrie, au lieu de laisser s'exprimer les gens, parce qu'ils ont besoin de parler, de raconter, de se raconter, eh bien, étant donné qu'on fait des économies sur les infirmiers et infirmières psychiatriques, et on donne des médocs, et ça fait fonctionner l'industrie pharmaceutique, donc on les met dans des camisoles chimique, et c'est de la foutaise. Pour une bonne et simple raison, c'est que ça, c'est... Attention, hein, ça ne... Ça... c'est une idée à moi. Voilà. Mais quand les personnes passent de l'autre côté, c'est un bouleversement chimique. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que, bon, ils souffrent tellement... qu'à un moment donné, ce processus, c'est-à-dire ce bouleversement chimique qui se fait pour, justement, aller dans un ailleurs où ils pensent qu'ils vont être mieux. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, à ce moment-là, ils tournent en rond et ils sont pas forcément mieux. Et tout ce que font, tout ce que fait la psychiatrie depuis des années et des années... C'est essayer de rétablir cet équilibre chimique que nous, si vous voulez, on a en soi ou pas, et que chaque individu a ou pas, de toute manière, parce que tout peut basculer du jour au lendemain, d'une fraction de seconde à l'autre. Donc, ils ne font qu'essayer de stabiliser. Ça se stabilise à un moment donné pendant quelques temps, mais après... Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça redémarre, ça recommence, le processus recommence. Au lieu de parler, au lieu de laisser parler les gens, on les fait taire. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce qui se passe souvent. C'est-à-dire qu'on fait taire les gens si la parole n'est pas la parole dans le bon sens ou dans la ligne qu'on veut. Voilà. Et ça me met en colère.
Merci Jean-Pierre.
Mais t'as pas à me remercier.
Mais si, parce que
c'est la vérité.
Moi je prends des cachets. Et...
Alors attention, attention. Il y a une chose, c'est que voilà. Bon.
Mais bon, il y avait eu une expérience. Foutu. Porte très rare.
Ah d'accord, pardon, excusez-moi.
Voilà, ça, c'est bon.
Non, je disais que dans les années 70, ça a été fait déjà. C'est-à-dire la psychiatrie ouverte. Mais ça n'a arrangé personne. Donc, on est revenu en arrière. Pourquoi ? Parce que c'est le business, quoi.
En tout cas, ce qu'il faut, je pense que...
Autrefois, il y avait eu des...
Vas-y, Julien.
Autrefois, il y avait eu des horizons...
Justement, attends, Jean-Pierre, les gens n'étaient pas forcés. Pardon, excusez-moi.
Pardon.
Autrefois, il y avait des horizons qui s'ouvraient sur le monde un peu différentes, qui partaient un peu dans tous les sens. Et ça c'est, il y a eu une rupture vraiment phénoménale. Le monde, enfin, ça s'est refermé comme une plaie qui a fait croûte, quoi. Et je trouve ça un peu dommage, quoi. Voilà.
Ça me fait penser que finalement, avec ce mot habiter, rentrer dans un espèce de tourbillon que. Avec juste un mot, on pourrait faire toute une journée d'émission.
On est d'accord.
En tout cas, le but de notre présence ici, tous autour de cette table, c'est bien ça, c'est de redonner la parole à tous, une parole libre. Mohamed, tu me demandais tout à l'heure si on pouvait dire vengeance à la radio. À la radio, on peut tout dire. En tout cas, nous, c'est le but de notre radio, c'est le but de cette émission. Voilà, c'est bien cette ouverture-là. Cette ouverture, cette liberté de parole pour tous et tous ensemble. Voilà, donc j'espère qu'on continuera encore longtemps comme ça. Merci à vous. Merci à tous, merci Rhizome, merci tout le monde. On se retrouvera le mois prochain pour une autre thématique. Voilà. À bientôt tout le monde. Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Let's go.